Dans ces situations critiques, le rôle du médecin est de se montrer inventif. Aujourd'hui, d'audacieux thérapeutes transplantent des équipes de bactéries bien rodées en même temps que toutes les autres bactéries intestinales de porteurs sains. C'est une procédure relativement simple que la médecine vétérinaire utilise avec succès depuis plusieurs décennies pour soigner de nombreuses maladies. Il suffit d'avoir des excréments sains et leur lot de bactéries. Et c'est tout. Le must de la stratégie d'équipe mixte, je vous le donne en mille, c'est la transplantation fécale. S'agissant d'une greffe médicale, on aura la chance de s'approprier un caca qui aura été nettoyé au préalable. Par en haut ou par en bas, ça n'a alors plus beaucoup d'importance. Dans presque toutes les études, le taux de réussite sur des cas sévères de diarrhée à Clostridium difficile, jusqu'ici avéré incurable, est d'environ 90%. Je vous mets au défi de trouver beaucoup de médicaments capables d'afficher de tels résultats. En dépit de son succès, cette méthode ne peut pour l'instant être utilisée que dans des cas vraiment désespérés, car on ne sait pas encore si en transplantant les selles d'autrui, on transplante aussi d'éventuelles maladies ou des germes potentiellement dangereux. Quelques entreprises travaillent déjà sur des transplants synthétiques dans l'espoir de pouvoir garantir l'innocuité de cette thérapie. Si elles y parviennent, nous aurons déjà fait un grand pas. Le vrai potentiel des probiotiques réside certainement dans la transplantation de bonnes bactéries capables de s'enraciner durablement. La greffe a même déjà permis d'obtenir de premiers résultats encourageants sur des cas de diabète sévère. Actuellement, on essaie aussi de déterminer si cette méthode pourrait empêcher le déclenchement d'un diabète de type 1. Des selles au diabète, c'est peut-être pour certains un grand écart inattendu. Quand on y réfléchit, pourtant, c'est loin d'être aberrant. On ne transplante pas seulement des bactéries défensives, mais tout un organe microbien qui participe à la régulation du métabolisme et du système immunitaire. Plus de 60% de nos bactéries intestinales nous sont encore inconnues. La recherche des espèces qui pourraient avoir des effets probiotiques est une tâche ardue, comme le fut autrefois la recherche de plantes médicinales. À la différence qu'ici, le remède vit en nous, et que chaque jour, à chaque repas, nous influons aussi sur notre organe microbien, en bien comme en mal. Les prébiotiques. C'est justement ce dont il s'agit quand on parle de prébiotiques. Favoriser les bonnes bactéries en consommant certains aliments. Au quotidien, les prébiotiques sont bien plus faciles à vivre que les probiotiques. Ils n'ont qu'une seule exigence. Il faut qu'il y ait de bonnes bactéries dans l'intestin concerné. La nourriture prébiotique va favoriser leur croissance et leur activité, de sorte qu'elles auront plus de pouvoir sur les mauvaises bactéries. Nos bactéries, étant bien plus petites que nous, elles voient la nourriture sous un tout autre angle. La moindre miette est un incroyable événement, une comète de Halley remplie de délices. Nous appelons fibres alimentaires tout ce qui ne peut pas être assimilé dans l'intestin grêle. Et elles l'ont effectivement, la fibre alimentaire, puisqu'elle contribue à nourrir nos bactéries dans le gros intestin. Car celles-ci aiment les fibres. Pas toutes, mais certaines. Il y a des bactéries qui aiment les fibres d'asperges, d'autres qui préfèrent les fibres de viande. Un médecin ne sait pas toujours très bien pourquoi il recommande à son patient de consommer plus de fibres. L'idée est tout simplement de fournir une alimentation consistante aux bactéries avec pour nous des effets bénéfiques à la clé. Les microbes de l'intestin vont enfin pouvoir manger à leur faim. Bien nourris, ils produiront des vitamines et de bons acides gras ou concocteront des séances d'entraînement pour maintenir notre système immunitaire en forme. Cependant, notre gros intestin accueille aussi des agents pathogènes qui peuvent produire à partir de certains aliments des substances telles que l'indole, le phénol ou l'ammoniac. Vous voyez, ce sont ces produits qu'on retrouve dans des emballages hérissés de symboles d'avertissement orange. C'est là que les prébiotiques jouent un rôle décisif. ce sont en effet des fibres alimentaires dont seules peuvent se nourrir les gentilles bactéries. Imaginez un peu si ce principe existait pour les humains. La cantine serait le lieu de toutes les vérités. Le sucre ménager, par exemple, n'est pas un prébiotique parce que les bactéries des caries l'apprécient aussi. Les prébiotiques ne sont que peu, voire pas du tout assimilés par les mauvaises bactéries. De sorte qu'elles ne peuvent pas s'en servir pour fabriquer des armes contre nous. Dans le même temps, les bonnes bactéries continuent de croître et de s'engaillardir, colonisant ainsi un territoire de plus en plus vaste. Le problème, c'est que notre alimentation manque souvent de fibres, et encore plus de prébiotiques. La plupart des Européens ne totalisent que la moitié des 30 grammes de fibres alimentaires recommandées par jour. C'est si peu que l'intestin devient le théâtre d'une lutte acharnée, dont les méchantes bactéries peuvent triompher. Pourtant, il n'est vraiment pas difficile de se faire du bien en faisant du bien à ces gentils microbes. Nous avons tous, ou presque, un plat prébiotique préféré que nous pourrions manger plus souvent. Ma grand-mère, par exemple, a toujours de la salade de pommes de terre dans son réfrigérateur. Mon père fait la meilleure salade d'endives à la mandarine de la planète. Un conseil, rincez brièvement les endives à l'eau chaude pour enlever l'amertume tout en gardant le croquant. Et ma sœur se damnerait pour des asperges ou des salsifis en béchamel. Ce sont là quelques-uns des plats que les bifidobactéries et les lactobacilles commanderaient sans hésiter. Nous savons aujourd'hui qu'ils ont un faible pour les liliacées, la famille des astéracées, ou composées, ou encore pour l'amidon résistant. Parmi les liliacées, il y a le poireau et l'asperge, mais aussi l'ail et l'oignon. Les composés, ce sont par exemple l'endive et le salsifis, ou encore le topinambour et l'artichaut. L'amidon résistant, quant à lui, se forme quand on laisse refroidir des pommes de terre et du riz après cuisson. L'amidon se cristallise et développe ainsi une résistance à la digestion. Qu'il s'agisse de salade de patates rustiques ou de sushis délicats, la proportion d'amidon qui parvient alors intacte jusque dans la salle à manger des microbes est en tout cas plus élevée. Si vous n'avez pas encore de plat prébiotique préféré, il suffit de faire quelques essais. Vous verrez, quand vous commencerez à consommer régulièrement tel ou tel plat, vous aurez soudain envie d'en manger encore plus souvent. Quand on se nourrit principalement de produits pauvres en fibres, pâtes, pain blanc ou pizza, mieux vaut éviter d'augmenter brutalement la quantité de fibres alimentaires. La communauté bactérienne, déjà un peu mal en point, risque sinon d'être dépassée par les événements. Les microbes perdent la tête et se mettent à métaboliser tout ce qui leur tombe sous la dent. Résultat, c'est le grand festival du prout. Quand on augmente les fibres alimentaires, on le fait donc progressivement et sans exagérer la dose. Après tout, c'est d'abord pour nous que nous mangeons. Nourrir nos bactéries passe après. Le grand festival du prout n'est pas une manifestation des plus agréables. Une trop grande quantité de gaz ballonne notre intestin, et c'est plutôt inconfortable. En revanche, un petit pet par-ci par-là, c'est très bon pour la santé. Nous sommes des êtres vivants, et nous hébergeons dans nos entrailles un petit peuple dont le travail assidu produit tout un tas de choses. La Terre supporte bien nos gaz d'échappement. Nous devrions supporter ceux de nos microbes et leur garantir une libre circulation. Si la mélodie est laissée à l'appréciation de chacun, l'odeur nauséabonde, elle, ne devrait pas être à l'ordre du jour. Les bifidobactéries et les lactobacilles, par exemple, ne dégagent pas de mauvaises odeurs. Et pour ceux qui se targuent dignement de ne jamais avoir de flatulence, sachez-le, un mauvais péteur est aussi un mauvais hôte qui laisse ses bactéries mourir de faim. Si vous aimez le travail vite fait, bien fait, vous pouvez aussi vous procurer des prébiotiques purs en pharmacie et parapharmacie. Il s'agit par exemple de préparations à base d'endives dont on extrait le prébiotique inuline ou à base de lait, à partir duquel on isole les galacto-oligosaccharides. L'effet bénéfique de ces substances sur la santé a été testé et l'on sait qu'elles nourrissent avec un certain succès une catégorie définie de bifidobactéries et de lactobacilles. Si les recherches sur les prébiotiques sont loin d'être aussi avancées que celles sur les probiotiques, certaines thérapies bien établies font cependant déjà appel aux prébiotiques. Prenons l'exemple des malades qui ont des problèmes de foie. Ceux-ci ne peuvent plus neutraliser aussi bien les toxines produites par les mauvaises bactéries et en ressentent parfois nettement les conséquences. Les effets des toxines bactériennes varient et vont de la fatigue au coma, en passant par les tremblements. À l'hôpital, ces patients reçoivent des prébiotiques hautement concentrés. Ceci favorisant les bonnes bactéries, les toxines générées dans l'intestin sont moins nombreuses. Et en règle générale, les problèmes disparaissent. Les toxines bactériennes ne sont cependant pas l'apanage des malades du foie. Elles jouent aussi un rôle chez monsieur et madame tout le monde, dont le foie est en pleine forme. Elles apparaissent par exemple quand les maigres fibres alimentaires disponibles sont déjà épuisées en amont du gros intestin et que les bactéries présentes en fin de parcours se jettent sur les protéines non assimilées. La viande et les bactéries ne font pas toujours bon ménage. On le voit à chaque scandale de viande avariée. Un excès de ces toxines carnées endommage le gros intestin et, dans les cas les plus extrêmes, peut être à l'origine de cancer. C'est en général à cet endroit que survient le cancer du côlon, dans la dernière partie de l'intestin. L'un des principaux axes de la recherche sur les prébiotiques est la prévention de ce type de cancer, avec des résultats pour l'instant prometteurs. Si des prébiotiques comme les galacto-oligosaccharides retiennent tout particulièrement notre attention, c'est parce qu'ils sont aussi produits par notre corps. Le lait maternel comprend ainsi 90% de galacto-oligosaccharides et 10% d'autres fibres non digestibles, tandis que chez la vache, les galacto-oligosaccharides ne représentent que 10% des fibres lactiques. Il faut croire qu'il y a là quelque chose d'essentiel pour le petit de l'homme. Quand on prend soin d'ajouter au lait infantile un peu de galacto-oligosaccharides en poudre, il n'y a plus de différence entre la flore intestinale des bébés nourris au lait artificiel et celle des bébés allaités. Quelques études laissent en outre entendre que les bébés ainsi nourris développent moins d'allergies et de dermatites atopiques que les bébés nourris avec un lait en poudre classique. Depuis 2005, l'adjonction de galacto-oligosaccharides au lait infantile est autorisée, mais elle n'est pas obligatoire. L'intérêt pour les galacto-oligosaccharides a encore grandi depuis et entre-temps, on a déjà pu démontrer un autre effet en laboratoire. Les galacto-oligosaccharides se fixent directement sur les cellules intestinales, principalement là où les agents pathogènes aiment sinon s'accrocher à nos basques. Ils fonctionnent ainsi comme de petits boucliers protecteurs. Incapables de se tenir, les mauvaises bactéries vont, au pire, déraper et aller faire des glissades plus loin. Dans le prolongement de ces découvertes, de premières études se penchent aujourd'hui sur la possibilité de prévenir la diarrhée du voyageur grâce aux galacto-oligosaccharides. Dans nos laboratoires de recherche, l'inuline a déjà plus de bouteilles que les galacto-oligosaccharides. De par son goût légèrement sucré et sa consistance gélatineuse, elle est parfois utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour remplacer le sucre ou le gras. Quand nous parlons de sucre, nous pensons généralement à une molécule bien précise issue de la betterave. Or, il existe des centaines de sucres différents. Quand nous avons lancé la production industrielle de sucre, si notre choix s'était alors arrêté sur l'endive comme matière première, les bonbons ne seraient pas des péchés contre nos dents. Ce qui est sucré n'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est plutôt que nous ne consommons que la version qui nuit à notre santé. Face à des produits vantés comme sans sucre ou non gras, nous sommes souvent sceptiques. Les édulcorants comme l'aspartame sont susceptibles d'être cancérigènes. D'autres édulcorants emblématiques de l'industrie agroalimentaire light sont aussi utilisés dans les porcheries pour engraisser les cochons. Notre méfiance est donc justifiée. Néanmoins, un produit qui contient de l'inuline en remplacement du sucre et de la graisse peut être plus sain qu'un autre qui affiche la dose complète de graisses animales et de sucre. Au rayon des produits allégés, cela vaut donc le coup de lire les étiquettes en détail. Dans certains cas, nous pouvons nous faire plaisir sans nous faire de mal, et nos bactéries auront elles aussi leur petite récompense. L'inuline ne se fixe pas aussi bien sur nos cellules que les galacto-oligosaccharides. Dans une vaste étude très bien conçue, il n'a pas pu être démontré d'effet protecteur contre la diarrhée du voyageur. En revanche, les participants prenant de l'inuline ont rapporté qu'ils se sentaient beaucoup mieux. Dans le groupe témoin qui n'avait reçu qu'un placebo, ce sentiment de bien-être n'avait pas été évoqué. L'inuline peut être produite sous des formes plus ou moins longues, ce qui est très pratique pour bien répartir les bonnes bactéries. Les chaînes courtes sont dévorées par les bactéries à l'entrée du gros intestin, tandis que les chaînes longues seront avalées à la sortie. Baptisé ITF Mix, ce prébiotique de longueur variable donne de bons résultats là où l'équation du succès fait appel au facteur surface augmentée. C'est par exemple le cas de l'assimilation du calcium. Ici, on a besoin de bactéries qui permettent partout son passage à travers la paroi de l'intestin. Lors d'une expérience sur un groupe de petites filles, ITF Mix a permis d'augmenter l'assimilation du calcium jusqu'à 20%. Une bonne nouvelle pour nos os et une possible protection contre l'ostéoporose liée au vieillissement. Le calcium est un bon exemple parce qu'il montre bien le champ d'action des prébiotiques et leurs limites. Premièrement, pour pouvoir obtenir un effet quelconque, il faut quand même d'abord ingérer assez de calcium et deuxièmement, les prébiotiques sont sans effet si le problème vient d'autres organes. À la ménopause, nombre de femmes voient leurs os se fragiliser. Les ovaires font leur grande crise existentielle. Ils doivent faire le deuil de la production hormonale et apprendre peu à peu à savourer la tranquillité de la retraite. Privés d'hormones, les os, eux, crient famine. Mais quand on parle ici d'ostéoporose, aucun prébiotique ne peut plus infléchir le cours des choses. Que cela ne nous amène pas à penser que les prébiotiques n'ont aucune importance. Notre alimentation compte parmi les facteurs qui influent le plus sur nos bactéries et les prébiotiques sont les outils les plus efficaces dont nous disposions pour favoriser les bonnes bactéries, celles qui sont déjà dans notre intestin et qui entendent bien y rester. Les gens fidèles à leurs habitudes, comme ma grand-mère accro à sa salade de pommes de terre, encouragent sans le savoir les meilleurs éléments de leurs organes microbiens. À ce propos, vous ai-je déjà dit que son légume préféré, à part les pommes de terre, était le poireau? Autrefois, quand tout le monde était malade à la maison, elle était la seule à s'activer dans la cuisine en souriant et à nous jouer des airs entraînants au piano. Quelle part de responsabilité ces microbes avaient-ils dans cette santé de fer? Nous ne le savons pas encore, mais le lien est envisageable. Pour résumer, les bonnes bactéries sont bonnes pour nous. Nous devrions les nourrir de manière à ce qu'elles puissent croître et se multiplier partout dans notre gros intestin. Pour cela, les pâtes ou le pain fabriqué dans une usine à partir de bouillies de farine blanche compactées ne suffisent pas. Il faut aussi parfois de vraies fibres qui proviennent de vrais légumes ou de la chair des fruits. Elles peuvent même être sucrées et goûteuses. Et peu importe qu'elles proviennent d'asperges fraîches, du riz des sushis ou des rayons de la pharmacie. Nos bactéries apprécient ce geste et nous remercient en travaillant de leur mieux. Vues au microscope, les bactéries sont de petits points lumineux sur fond de ténèbres. Mais toutes ensemble, elles sont plus que cela. C'est une véritable communauté que chacun d'entre nous héberge. La plupart de ses membres sont tranquillement installés dans les muqueuses et donnent des cours au système immunitaire, prennent soin de nos villosités intestinales, mangent ce dont nous n'avons pas besoin ou fabriquent des vitamines. D'autres sont logés à proximité des cellules intestinales, les piquent de temps en temps ou fabriquent des toxines. Quand le bon et le mauvais vivent en bonne intelligence, Le mauvais peut nous rendre plus forts. Et le bon, prendre soin de nous et de notre santé. Mise à jour 2017. Un mot ou deux sur cette mise à jour. En 2013, en pleine rédaction de cet ouvrage, je peinais sur les paragraphes concernant l'axe intestin-cerveau. Durant des semaines, impossible d'écrire une seule ligne. À l'époque, ce domaine de recherche était très nouveau. Les études existantes ne portaient presque toutes que sur l'animal, et ce qu'on avait alors en main, c'était bien plus des suppositions que des connaissances pures et dures. D'un côté, je voulais absolument parler de ces expériences et de ces pistes de réflexion, mais de l'autre, je craignais de faire naître de faux espoirs ou de proférer des semi-vérités. Un jeudi pluvieux, je me retrouvais donc chez ma sœur, assise dans sa cuisine, à pleurnicher sur mon sort et à m'inquiéter de ne pas pouvoir écrire ce texte avec la précision et la clarté requises. Alors, après avoir écouté mes lamentations, ma sœur, presque autoritaire, finit par déclarer « Pour commencer, tu vas tout simplement écrire ce que tu as compris, toi, de tout ça. » Et dans les années qui viennent, si tu as des informations plus concrètes sur le sujet, tu pourras sûrement les ajouter. Le moment est venu. Du nouveau sur l'axe intestin-cerveau. Faire de la recherche, c'est un peu comme traverser par temps de brouillard une région qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui adoreraient faire ça tous les jours, et surtout, qui aurait assez d'enthousiasme à long terme pour photographier consciencieusement chaque buisson et chaque façade se détachant de la purée de pois alentour. Il peut aussi arriver qu'on suive patiemment un long fil de laine jusqu'à constater finalement qu'on est en train de détricoter son propre pull au vert. Après ça, rentrer chez soi et raconter en toute honnêteté les résultats du jour, c'est juste moyennement cool. Il y a quelques années, on savait que l'humeur de souris dépressive est susceptible de s'améliorer grâce à certaines bactéries ou que les rats voient leur caractère se modifier quand on leur inocule les bactéries intestinales d'autres rats. La notion de psychobiotique était née. Elle désigne les microbes qui agissent au niveau psychologique et peut-être même à l'encontre de maladies comme la dépression. Ce qu'on ne pouvait pas encore savoir, en revanche, c'était si les psychobiotiques étaient aussi capables d'influer sur le cerveau humain. Entre-temps, une vingtaine d'études bien étayées ont été menées sur l'être humain. Trois des cocktails de bactéries testés se sont avérés inefficaces, mais tous les autres, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, ont un effet sur notre psychisme. Le tableau qui se dégage de l'ensemble est réaliste. Les bactéries n'entraînent pas de brusques changements d'humeur, mais influent progressivement sur nos états d'âme, avec une efficacité qui ne se révèle souvent qu'au bout de 3 ou 4 semaines après le début de la prise, et seulement jusqu'à un certain point. Côté stress, un premier changement de paradigme a également eu lieu, de sorte qu'on reconnaît désormais le rôle de l'intestin dans ce domaine. Impossible cependant de se prononcer de manière globale sur les effets des bactéries et leur ampleur, puisque chaque équipe de chercheurs ou presque a testé des bactéries différentes. Il ne nous reste donc plus qu'à aller y voir de plus près. Humeur. Dans le cadre d'expériences portant sur l'humeur, ce qu'on veut connaître en premier lieu, ce sont les sentiments qui la composent. Autrement dit, il s'agit de déterminer les différents ingrédients de notre humeur. La plupart des scientifiques utilisent à cet effet des questionnaires, la variété des questions cachant des catégories selon lesquelles l'humeur est classifiée. De morne à joyeuse, d'anxieuse à courageuse, furibonde ou bien paisible, soucieuse, par exemple vis-à-vis de son propre corps, ou affable, etc. C'est aussi la méthode choisie par un groupe de chercheurs anglais pour évaluer, lors d'un premier essai prudent, les effets de la bactérie lactique Lactobacillus casei shirota, que l'on connaît pour l'avoir vu figurer sur les emballages de certains yaourts liquides du supermarché. Après 3 semaines de consommation, le tiers le plus mal luné des participants a vu son humeur s'améliorer et s'éloigner du niveau morne pour aller vers une tendance joyeuse. Chez les participants les plus enjoués, en revanche, la bactérie lactique n'a entraîné aucune amélioration supplémentaire. Et d'autres domaines, tels que la colère ou l'anxiété, n'ont pas non plus été influencés. Une autre étude, cette fois française, a abouti à des résultats bien différents. Le cocktail testé combinait deux bactéries, Bifidobacterium longum et Lactobacillus helveticus, souvent abrégé dans la liste des ingrédients sous les formes B. longum et L. helveticus. À l'issue de 4 semaines de prise, une évolution positive a pu être constatée sur les sujets testés. Leur tendance dépressive reculait, mais aussi les paramètres liés à la colère ou encore la tendance à considérer de petits inconforts physiques comme d'insupportables souffrances. Une équipe hollandaise a mené un travail plus spécifique encore sur ce qui relève du domaine de l'humeur. Elle s'est penchée sur une humeur bien particulière, nos petits coups de moins bien quotidiens. Le genre de vague à l'âme qui touche tout le monde, même quand on est en parfaite santé. Au fond, rien de grave n'est arrivé, et on ne saurait même pas vraiment dire d'où vient ce drôle d'état d'esprit. Mais une chose est sûre, on se sent moins vaillant que d'habitude. Ces moments, s'ils ne fournissent que rarement matière à conversation, et ont peu de chances de faire la une des journaux, passionnent aujourd'hui les chercheurs en psychologie, pas tant pour ce qu'ils sont que pour les réactions qu'ils suscitent en nous. Sans doute mieux que n'importe quel autre paramètre, nos réactions permettent en effet d'évaluer la probabilité qu'a un individu en bonne santé de développer ou non une dépression. Plusieurs études ont ainsi montré que la tendance à gamberger et à ressasser des idées noires, par exemple pour trouver d'éventuels coupables, était un facteur des plus défavorables. Dans le cadre de l'expérience hollandaise, les personnes testées devaient se projeter pendant plusieurs minutes dans la situation suivante. Cette journée n'est vraiment pas super. Je ne me sens définitivement pas au top. Mais il n'est rien arrivé non plus de dramatique qui justifie